Bien, alors je suis à présent vraiment très heureux de vous présenter le frère Juan Antonio Marcos, qui est un frère carme de la province ibérique, qui donc est professeur à l'université Comillas à Madrid, professeur de théologie spirituelle, et qui a la double casquette de théologien et de linguiste. Il va nous présenter, alors il a écrit de très nombreux ouvrages, je vous présente le dernier, Teresa de Jesús, la transparencia del misterio. Si vous lisez l'espagnol et que vous voulez lire vraiment un très bon livre sur Thérèse, et avec des choses nouvelles, vraiment je vous le recommande. Malheureusement, il n'est pas à la librairie, mais vous le trouverez sur Internet. Voilà, un livre supplémentaire à traduire. Aux éditions du Carmel, bien sûr. Voilà, et il va donc nous parler de 30 ans de recherche thérésienne depuis le versant de la langue, recherche dont il était un des principaux protagonistes, pour pas dire le principal. Voilà, donc Juan Antonio, nous t'écoutons.
Merci beaucoup pour l'invitation à cette colloque. Et je suis désolé parce que je ne peux parler en français. Et je peux lire, mais c'est impossible pour moi parler en français. Je voudrais commencer avec une citation en français de Adolphe Gasset. En Espagne, nous avons traduit tous les livres d'Adolphe Gasset. Je crois que il est un théologien très, pas systématique, mais très suggestif. Et en ce livre, nous pouvons lire, dans la page 144, il est parlant de les relations entre littérature et mystique et théologie en général. Et il dit, je vais le dire d'une façon provocante. Je suis plus convaincu par un personnage de roman qui me parle de Dieu que par Saint-Thérèse d'Avila.
Je crois qu'une partie de raison à Adolphe Gasset, mais je crois qu'il n'a pas lu Saint-Thérèse. Parce que s'il avait vraiment lu Saint-Thérèse, il se serait rendu compte que Thérèse a été une écrivain qui a écrit des nouvelles, des romans, une romancière. C'est histoire de la mystique, certes, mais aussi histoire de la littérature, et de la littérature espagnole, elle a marqué. En ce sens-là, Thérèse appartient également à la littérature, et on doit la lire à partir aussi de la littérature. Il me semble que ce bref parcours est bref. Je sais pas, est-ce qu'il faut que je reste proche du texte ou pas pour la traduction? Il va recueillir le fondamental, sinon on n'aura pas le temps de faire l'ensemble. L'idée est que de présenter une vision diachronique à travers le temps de certains des livres fondamentaux qui ont été publiés depuis le versant littéraire par rapport à Saint-Thérèse et son langage et certains des articles clés. Et à la fin, de faire une récapitulation de telle façon qu'on puisse visionner quels sont les éléments novateurs qui, depuis l'an 1982, on a amené, apporté à travers ces études pour mieux comprendre la langue de Sainte-Thérèse. Et ceci est fondamental. Un grand connaisseur de Sainte-Thérèse et aussi, je crois, connu en dehors de l'Espagne, comme Miguel de Unamuno, un philosophe, écrivain, il disait que la mystique était théologie. La mystique est un problème de langage, et Michel de Certeau ne serait pas très loin de cette opinion. En ce sens-là, les moments les plus importants de ce parcours est important, et tenir compte, nous le verrons dans la dernière partie, que certaines de ces études les plus récentes, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'ils apportent une vision interdisciplinaire. quand on étudie le langage de Sainte Thérèse, on ne peut pas laisser de côté d'autres aspects de sa personnalité. Il faut tenir compte, elle était avant tout, et elle est grâce à ses écrits, une femme polyfacétique, avec beaucoup de visages donc. Et si on ne contemple pas tous les visages, on est en train de ne pas rendre compte de ce personnage. Une seule perspective, c'est perdre l'enchantement qu'a cette figure de Sainte Thérèse. Il faut donc lui laisser ses divers visages. C'est ce qui fait tout son charme. Dans le premier point, nous allons rappeler quelques livres de référence qu'il y a eu dernièrement sur le langage de Sainte Thérèse. Avant l'an 1982, du centenaire donc précédent, il y a eu de très bonnes études, et qu'il ne faut pas oublier. Le premier et le plus important est apparu en 1588, c'est-à-dire Fray Luis de León, l'éditeur de la première édition des œuvres complètes de Sainte Thérèse, à Salamanque. Là, il y a une introduction sur le langage de Sainte Thérèse qui est parmi les meilleures choses qui se sont écrites et qui reste très actuelle aujourd'hui. Au XIXe siècle, il y a également quelques études de référence, et pour rappeler quelques noms avant le centenaire de 1982, l'œuvre la plus importante, c'est celle de Victor García de la Concha, qui est apparu en 1978. Ce qui nous intéresse ici, maintenant, c'est après 82. Après le 82, un premier nom qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de l'hispaniste italienne qui s'appelle Rosa Rossi, communiste, une personne non-croyante et qui certainement a apporté certaines des intuitions les plus suggestives pour comprendre Sainte Thérèse, sa langue et aussi, je dirais, l'ensemble de la personne de Thérèse. Sa biographie, Teresa de Ávila, biographie d'un écrivain, est apparue en 1983, une traduction en français aux éditions du CERF, et c'est l'une des meilleures biographies, à mon avis, de Thérèse d'Ávila. Et là, nous trouvons, même si c'est une biographie, beaucoup d'éléments du langage de Sainte Thérèse. Par exemple, Rosa Rossi a perçu que l'un des éléments clés pour comprendre Thérèse, c'est les stratégies rhétoriques qui inondent tous ses écrits. Je vous lis simplement tiré de ce livre. En terminant le prologue des demeures, elle a commencé à écrire. Et elle a commencé par faire une fiction, en inventant l'idée de l'âme comme un château avec cette demeure, que cette idée lui était venue le jour même où elle avait commencé à écrire. Citation, « J'étant en train de supplier notre Seigneur qu'il parle par moi, ainsi son discours est apparu comme un récit vivant, comme une conversation entre amis. » Et nous, on peut penser avec ingéniosité qu'il n'y a que de la spontanéité chez Thérèse, mais en fait, il y a une élaboration. Il y a une élaboration fictive des choses, une mise en scène. Il y a un cumul de stratégies rhétoriques avec un discours mystique et que Sainte Thérèse était consciente de ces mises en scène. Si elle a été une très grande lectrice, c'est aussi une écrivain professionnelle et qui en plus aimait écrire, presque une addiction à l'écriture. Elle avait une addiction. Dans l'une de ses lettres, elle dit « Le médecin m'a dit de ne pas écrire au-delà de minuit parce qu'hier, j'ai écrit jusqu'à 2h du matin. » Voilà, donc elle avait une joie, une jouissance à écrire. Même si c'est une biographie, au sens strict, elle donne des clés, donc Rosa Rossi, pour avoir une vision interdisciplinaire. Et donc je recueille simplement quelques petits aspects clés. la dialectique, par exemple, continuelle qu'il y a dans les écrits de Thérèse entre l'intérieur et l'extérieur, le monde et Dieu. Cette lutte dialectique, on l'aperçoit presque partout dans toutes ses œuvres. Et Rosa Rossi a vu cela mieux que tout le monde, peut-être. Le centre de la narration, c'est l'intérieur, dans la mesure où c'est ce qu'elle a vécu à l'intérieur qui est le plus important. Et l'extérieur, c'est la culture, le monde, le chemin de conversion et de salut qu'il faut faire. Avec Rosa Rossi, il faudrait aussi, plus d'un point de vue plus littéraire, il faut faire référence ici à Alison Weber, qui en 1990 a fait une étude rigoureuse. Je crois que ce n'est pas traduit en français, je crois pas. En tout cas, c'est traduit à l'italien. Thérèse of Avila and the Rhetoric of Femininity. Donc la rhétorique de la féminité. Qu'est-ce qu'elle rajoute dans ce livre, Alison Weber? Ce qu'elle apporte, c'est qu'il y a quelque chose qu'il y avait déjà dans Rosa Rossi, mais qui n'était pas étudié systématiquement chez Rosa Rossi. Les stratégies rhétoriques ont à voir avec sa condition de femme. Pensez que l'une des clés herméneutiques qu'on a utilisées pendant très longtemps, c'est celle de son origine judéo-chrétien. Conversos. Donc cette clé herméneutique, il y a 20 ans, a été très importante. Aujourd'hui, l'immense majorité, la clé véritable, on pense plutôt aujourd'hui, c'est sa condition de femme. Dans une société comme celle du XVIe siècle, où les femmes ne comptaient absolument pas. Ce sont des citoyennes de seconde, troisième division, troisième catégorie. Et continuellement, elle s'en plaint dans ses œuvres de se sentir et se savoir marginalisé. Je pense à une citation du livre de la vie, « Il suffit d'être femme pour que mes ailes me tombent ». Pour que les ailes me tombent. C'est une image très claire, sens de perte de liberté. Alison Weber, dans cette étude, fait un parcours de toutes les stratégies thérésiennes à partir de cette clé de la féminité. Dans le livre de la vie, elle trouve une rhétorique de l'humilité. Dans le chemin, c'est plutôt l'ironie qui domine. Dans les demeures, c'est plutôt l'offuscation comme rhétorique dominante. Et finalement, dans les fondations, la rhétorique de l'autorité. Mais sans aucun doute, tous ces aspects de ce langage, notez que c'est 1990, ils sont héritiers d'une autre étude que nous allons commenter plus brièvement, de Márquez Villanueva. On va le laisser de côté pour l'instant parce que cette étude est très importante comme article. Il y a un article très important. Donc pour l'instant, j'en reste au livre. Alors, je rappelle, je cite encore d'autres livres de ces dernières années, un autre livre, un de Montserrat Izquierdo Sorli, dont le titre est « Thérèse de Jésus, une aventure intérieure, étude d'un symbole ». Publié en 1993. C'est une capacité à systématiser l'aspect symbolique du texte thérésien. Pensez que Sainte Thérèse, quand elle écrit sa grande œuvre, sa première grande œuvre, La vie, nous sommes devant une théologie fondamentalement narrative. Il s'agit de raconter une expérience. Quand elle écrit sa dernière œuvre, en pleine maturité, quand ont disparu tous les phénomènes extraordinaires, les phénoménologies spéciales, les phénomènes rares, transverberation, vision, tout cela disparaît quand elle arrive au sommet de son expérience. Et en 1577, elle écrit les Livres des Demeures. Là, on trouve une transition très intéressante pour comprendre le langage de Thérèse, d'une théologie narrative initiale, on passe à une théologie symbolique. Dans le livre des demeures, elle est capable de symboliser son expérience. Le symbole a une force spéciale. Nous parlons aujourd'hui beaucoup de netologie narrative, mais le symbole donne une profondeur. Et le symbole permet, ce qu'il a de fascinant, c'est qu'il permet une lecture ouverte. Un peu que ce que disait Umberto Eco, opera aperta. Une œuvre ouverte, plus plurielle, plus riche. Donc Montserrat Izquierdo, ce qu'elle fait, c'est synthétiser les grands noyaux symboliques thérésiens. C'est son grand apport. Je vais simplement dire deux paroles sur mon propre étude. Donc ici, avec un manque d'humilité, je vais parler de ma propre œuvre, donc fruit d'une thèse doctorale qui apparue en 2001. Mystique et subversive, Thérèse de Jésus. C'est une analyse de l'ensemble de toutes les stratégies rhétoriques de Sainte-Thérèse vues d'une perspective interdisciplinaire. C'est-à-dire les éléments de conversation, c'est-à-dire l'aspect colloquial, de colloque du langage. Thérèse utilise un langage vraiment très, très de colloque. Dans cette œuvre, il y a aussi beaucoup d'études, les actes de parole, la pragmatique, ce qu'on appelle la pragmatique ou la pragmalinguistique, pragmato-linguistique, je crois, et la linguistique du texte. L'idée, c'est qu'à la fin, le lecteur ait une vision plus globale des ensemble des éléments qui caractérisent le discours de Thérèse, mais d'un point de vue d'une discipline plus technique, comme peut être la pragmalinguistique, la pragmato-linguistique, je ne sais plus le terme exact. Ce que l'on suit dans cette œuvre, c'est donc pluridisciplinaire, une méthode et aussi un aspect inductif. Ça serait les œuvres les plus importantes parmi les livres. Nous allons maintenant voir quelques articles parmi les plus importants qu'il y a eu à partir de 1982 et qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. Je vous parlais tout à l'heure de Menéndez Pilal, un article que tout le monde qui voudrait comprendre la langue de Thérèse, le professeur Francisco Márquez Villanueva. Pardon, je me suis trompé. Il était d'origine de Séville, mais il a enseigné à New York. Il est mort en 2013, la même année où Rosa Rossi est aussi décédée. En 1983, il a écrit un article dont le titre, c'est « La vocation littéraire de Sainte-Thérèse ». De mon point de vue, c'est ce qu'il y a de mieux qui a été écrit sur le langage de Sainte-Thérèse comme synthèse. C'est une étude où nous trouvons, où on nous met en relief, comme jamais on l'avait fait peut-être précédemment, certaines des dotes particulières du langage de Sainte-Thérèse. D'abord, une addiction graphomane. Elle avait une addiction vraiment à l'écriture. Deuxièmement, la continuelle stratégie dans son discours et un troisième aspect très important, la présence, je ne vais pas utiliser des termes trop techniques, mais des préoccupations métalinguistiques. Et Thérèse écrit et continuellement elle réfléchit sur ce qu'elle est en train de faire, son discours, au moment où elle écrit. Et ça, c'est assez fascinant, qui parfois pour le lecteur, et surtout pour le lecteur qui essaye de s'approcher de Thérèse et qui ne sait pas l'espagnol, qui ne sait pas le castillan, ça lui crée parfois des problèmes pour suivre Thérèse. Je retiens deux citations parce qu'il me semble que c'est le plus significatif. Une par rapport au plaisir d'écrire, plaisir dans l'écriture qui est si présent dans Sainte Thérèse. Voici ce qu'il dit. Parce que le préjugé hagiographique a empêché de reconnaître quelque chose de très évident, jamais affirmé jusqu'à présent, et qui continue, qui probablement causera un scandale chez certains. Sainte Thérèse jouissait du plaisir de créer comme une véritable addiction. Une espèce de... je n'arrive pas à traduire, mais grâce à Dieu, elle n'en a pas été consciente. C'est même les médecins qui sont obligés de l'empêcher d'écrire parce que elle écrivait toute la journée, enfin pendant la journée et aussi très tard la nuit. Et il me semble que cet auteur nous a permis de voir comment elle incorpore le processus de création dans la créature, dans la création, pardon, comment le fait même de créer est intégré dans sa création. Voilà. Il y a Miguel de Cervantes qui fait ça dans Don Quichotte. On sait que Cervantes a lu Sainte-Thérèse, on le sait avec toute sécurité. Là, il y a des études maintenant de Aurora Ejido, qui a une chaire à Saragosse, et aujourd'hui, maintenant, on l'accepte assez facilement. Et une partie du style de Cervantes est héritier de celui de Sainte-Thérèse. Ce style libre, sans règles, ouvert. Je lis encore donc cette idée. Sainte-Thérèse non seulement travaille ses pages, mais elle les autocritique. Elle entre dedans, elle en sort. Ça, oui, c'est intraduisible dans le papier, dans le rôle Fumbon de l'écrivain qui est en train de faire sa labeur. Avec beaucoup d'humour et d'enchantement, elle incorpore aussi d'une manière que l'on pourrait appeler Cervantina, donc de Cervantes, le processus créateur comme élément thématique de l'œuvre créée. Donc, entre choses sérieuses et blagues, elle écrit. Donc, voilà, fin de la citation. Voilà, ça c'est l'un des grands apports qui ont apporté depuis 1982. Qui pourrait avoir compréhension et des lettres et des nouvelles paroles pour pouvoir communiquer ce que j'ai vécu, intelligence, culture, et puis même des nouvelles paroles. Voilà ce qu'elle cherche, c'est ça que cherche le mystique pour pouvoir traduire ce qu'il vit. D'autres études postérieures à 1982 sont celles de Victor García de la Concha, qui avait donc écrit en 1978, en particulièrement deux articles importants qui mettent en lumière les aspects suivants. Voilà, donc je le cite littéralement. Si je fallait que je concrétise qu'est-ce qui est, à mon jugement, le plus révolutionnaire de la manière thérésienne de communiquer, je ne douterais pas à dire que son aspect plus moderne de la Renaissance, c'est le suicide, deux points, mettre en valeur l'expérience personnelle consacrée comme le point de départ et l'axe de tout, c'est-à-dire moi, mon expérience, ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai expérimenté. Voilà, c'est la clé aussi littéraire. Cela va en ligne, enfin est en ligne avec d'autres œuvres littéraires de la même époque, comme le Lazarillo de Tormes, une aussi qui est une forme d'autobiographie, même si c'est anonyme, et qui en appelle à l'expérience de ce Lazarillo, donc de cette aide de l'aveugle. Ce même auteur a mis aussi un autre aspect en lumière dans un second article en 1984, c'est l'intentionnalité pragmatique. Elle n'écrit pas pour des raisons esthétiques, même si elle sait qu'elle écrit bien. Elle-même s'auto-éloge. Mais ça, c'est pas sa première préoccupation, l'esthétique. Elle écrit pour des raisons pragmatiques. Et ça, c'est très important, c'est fondamental. Ce qui l'intéresse, c'est communiquer au lecteur. Arriver jusqu'au lecteur, que le lecteur soit capable d'avoir une empathie avec cette expérience. Donc cette intentionnalité pragmatique est un élément fondamental pour comprendre le langage de Sainte-Thérèse. Et enfin, un autre article important, celui de Francisco Rico. Il a une chaire à l'université de Barcelone, un grand spécialiste également de Don Quichotte. Il a écrit il y a quelques années un article en 1991 que tout le monde cite mal parce que l'auteur est attribué à un autre auteur, Javier Marías, qui n'a fait qu'écrire le prologue de deux pages de cet ouvrage, de cet article, pardon. Et du coup, tout le monde cite celui qui fait le prologue et non pas l'auteur. Donc l'auteur est bien Francisco Rico. Voilà le titre de son article. succès et échec de Sainte Thérèse. Et c'est vrai, parce que je lis ici encore une citation de cet auteur sur le style de Thérèse, qu'il a mis en relief. Sainte Thérèse, quand elle écrit... Oui, alors comment traduire? Comment on va traduire? Elle a tendance à haleter et à s'écraser elle-même. Atropellar, c'est quand une voiture écrase, à s'écraser, à s'auto-écraser en quelque sorte, plutôt que ça ne soit flux. Les compositions de la phrase, les composants, les membres de la phrase, enfin les éléments de la phrase, pardon, se présentent à l'auteur tout simultanément. On a l'impression. Et elle sait pas trop comment faire avec tout ça, parce que tout ça arrive en même temps. Et donc, elle n'arrive pas, la syntaxe n'arrive pas à suivre. Et cela nous arrive à nous aussi, même à nous qui parlons castillan, c'est ce qui nous arrive avec la pensée de Thérèse. Et il conclut, l'attractivité de Sainte Thérèse n'est pas dans la facilité, mais dans l'énorme difficulté avec laquelle la sainte essaie de refléter ce qu'elle ressent, qui déborde l'écriture, cette lutte avec la parole. Ça, c'est l'un des aspects les plus attractifs de Sainte Thérèse. Dans l'histoire de la mystique, peu ont eu cette capacité introspective de Sainte Thérèse pour faire des voyages intérieurs et pour les raconter. Il y en a beaucoup qui ont fait des voyages intérieurs, mais peu ont la parole pour le dire. Elle était capable de raconter cette expérience et de la raconter à travers combien de temps nous avons encore? Un quart d'heure. Merci. Quelques articles encore de référence dont on peut tenir compte lorsque les actes seront publiés. Vous aurez donc l'ensemble. Je rappelle simplement quelques noms les plus importants. Emilio Orozco, en 1994, a publié un article très intéressant où il nous aide à nous rendre compte d'une autre caractéristique du style de Sainte Thérèse. Elle écrit pour être écoutée plus que lue. Nous nous lisons, Sainte Thérèse. L'idéal serait de l'écouter, quelqu'un qui lit Sainte Thérèse. Parce que là, son discours prend force, parce que sinon, c'est pas facile. Ça, c'est un autre élément clé que cet auteur a mis en relief. Une femme qui a écrit un article très intéressant, un autre article, en 1994, c'est Diana Sartori. L'article « Pourquoi Thérèse ?»« Pourquoi en deux mots Thérèse ?» Je vais lire une citation. Je vais essayer pourquoi j'avais de l'admiration pour elle et la fidélité. Je me suis répondu à moi-même que ce qui m'a conquis, c'est sa passion pour sa liberté, pour la grandeur de ses désirs, sa force pour les affirmer et pour les réaliser, et sa capacité pour les communiquer. Mais surtout pour les transmettre après 4 siècles. Mais surtout, elle a tenu compte de sa condition première, celle d'être femme, une condition que l'on ne peut pas supprimer et qu'elle ne manque jamais de souligner. Et c'est pourquoi elle se réfère à elle, et c'est pourquoi ses interlocutrices sont souvent des femmes. Elle se dirige à ses semblables. Elle demande à ses interlocuteurs qu'elle l'écoute, elle leur offre sa parole, et à nous, femmes, a nosotras, a mí, me habla, ça me parle. C'est une femme qui écrit cet article. Une chose, c'est qu'elle parle avec des lettrés pour discerner son expérience, mais en fait, ces écrits sont essentiellement adressés à des femmes. Et cela est une caractéristique. Martin Gaite, autre femme, qui a écrit un autre article également, Cherchant le moyen, intitulé Buscando el modo, Cherchant le moyen. En espagnol, c'est aussi chercher le moyen, c'est un peu particulier, même en espagnol, c'est curieux comme titre. Mais justement, qu'est-ce que c'est? Dans Thérèse, on trouve la première biographie moderne dans l'ambiance de la spiritualité, et même d'un point de vue européen. La première biographie spirituelle moderne. Et Thérèse, de ce point de vue-là, ses sources sont bien sûr les confessions de saint Augustin. Dans sa biographie, c'est une autre nouveauté. Je passe certaines les élections graphiques, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire d'ailleurs, qui est plus technique, que vous aurez dans l'article. Et j'en passe à une professeure, une femme, Aurora Ejido, qui a une chaire à Saragosse. Et dernièrement, elle a fait plusieurs études sur Sainte Thérèse, depuis l'année 1982 et même en 2012, donc jusqu'en 2012. Et dans certains de ses articles, très novateurs sur un certain nombre de points, en insistant sur des stratégies, des aspects du style qui avaient déjà été mis en relief, mais n'empêche qu'il y a des aspects... voilà, je lis une citation de l'un de ses articles, je cite... Je ne lis pas le titre original, peu importe, je passe. En précédant à l'avance les demandes, les questions de ces moniales, elle leur confiant ses doutes dans la manière de traiter la langue, et tout en se lamentant de ses peu de connaissances, de l'écriture, Sainte Thérèse, grâce à tout cela, obtient un indice d'oralité inusité. Alors, c'est technique, hein, indice d'oralité. En parlant avec un style rempli d'une vitalité immédiate, proche des recours, des moyens de la prédication et de la catéchèse. Cette même professeure a mis en la captatio benevolentia, la fausse modestie, tous ces éléments stratégiques, elle les a étudiés. Mais je vous réciter certains de ces derniers articles, en particulier un publié en 2014, donc très récent, dans une entrevue, dans une revue littéraire, intitulée La démémoire, enfin la manque de mémoire, c'est l'amnésie, c'est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver à un peuple. C'est le titre de l'entrevue. Le fait d'être femme et de ne pas être lettrée se transforme chez elle en une liberté, une libération. Elle se plaint tout le temps qu'elle est inculte, et c'est évident qu'elle n'a pas les connaissances d'un Fray Luis de León, mais en réalité... Elle enferme une quantité incroyable de lectures qu'elle ne confesse pas, qu'elle ne dit pas, mais qui sont là. Son grand avantage, c'est qu'en se faisant l'idiote et l'inculte, elle manie tout à sa manière et elle amène tout à son propre terrain. Et du coup, la prose peut avoir des formules nouvelles, avec des ruptures de syntaxe, qui n'était pas permis, bien sûr, par la littérature, mais qu'elle utilise en cassant les règles de la rhétorique. Après elle, et là c'est l'auteur qui l'a mis avec Cervantes, a mis le lien avec Cervantes, seul Cervantes est capable de parler avec ce style ouvert et un style qui ne se soumet pas aux règles, au moment d'écrire. Un autre aspect mis en lumière, c'est la fonction de la maladie dans la vie, dans l'écriture de Thérèse. La maladie comme chemin de perfection, mais l'analyse d'un point de vue littéraire et existentiel. Ici, je ne lis pas tout, mais l'article, vous l'avez ici, avec les citations les plus significatives de ce point de vue-là. Ce même auteur a publié en 2012 un autre article où elle manifeste, où elle montre, met en relief, une autre note qui parcourt tout le langage thérésien, qui est la présence de ce qui, on va dire cette parole, ce qui est admirable, admirable. Nous, souvent, on reste avec l'extraordinaire, alors qu'en réalité, ce qui est intéressant chez Thérèse, c'est ce qui est admirable. Ce qui est extraordinaire ne la préoccupe pas. Quand on parle de phénoménologie de la mystique, expérience extraordinaire, tout ça s'est relativisé par Thérèse. Et elle passe en second lieu, parce que ce qui est important finalement, ce sont les fruits de cette expérience. Et donc dans cet article, Elle parle de ce de elle oppose ou enfin on met en entre l'admirable et l'extraordinaire. Elle fait cette distinction. Un peu dans la ligne des confessions de saint Augustin. Ici, ça serait très intéressant de voir comment cet auteur met en relief, d'une manière inconsciente, elle a mis d'une source peut-être néoplatonicienne et pétrarchiste de Pétrarque, cette idée que l'amant, donc ici, Dieu, dans ce cas précis, c'est Dieu lui-même, est imprimé dans l'âme elle-même. Ceci apparaît très bien, très reflété dans cette scène qu'on nous raconte de Thérèse dans l'escalier du monastère de l'Incarnation à Avila, où on raconte qu'elle rencontre un enfant Jésus, et toi qui es-tu? Ben moi je suis, Thérèse dit, je suis Teresa de Jesús. Et l'enfant répond, eh bien moi je suis Jésus de Thérèse. Cette anecdote est en train de refléter cette même idée. L'un des aides le plus fascinant, spectre fascinant, toutes ces expériences mystiques sont toujours imprimées, gravées dans le cœur, fixées à l'intérieur. Ça a un héritage de Pétrarque et néoplatonicien. Et pour finir, à quelques minutes, bon, 8 minutes, 10 minutes, c'est ça? Non? Alors, si. Ah. Ah, bon. Alors, deux mots maintenant sur l'interdisciplinarité. Les dernières études sur le langage vont dans ce sens-là. Et l'un des aspects les plus qui attire, par exemple, les images spatiales dans le cas de Sainte-Thérèse. Les images spatiales que nous connaissons bien, surtout celle du jardin dans le livre de la vie, bien sûr celle du château, évidemment dans la dernière œuvre, et le livre de demain. Quel est l'apport récent par rapport à ces images spatiales? Je dirais que le plus attrayant, c'est que ces études ont été capables de mettre trois géographies en connexion. Trois géographies. La géographie. Une géographie extérieure, physique. Les chemins qu'a parcouru Sainte-Thérèse quand elle a fondé. La seconde géographie, donc les chemins concrets, autrement dit la géographie physique. La géographie, face à cette géographie extérieure, une géographie physique, une géographie intérieure. Et cette géographie intérieure est en relation avec les grands symboles qu'elle crée, qui est le jardin et le château. Mais en même temps, c'est aussi avec une géographie architectonique. La Carmélite vit dans des espaces architectoniques concrets. Le cloître, l'espace de la cellule comme espace d'intimité, de relation avec la divinité, et l'espace du jardin conventuel comme espace de récréation. Toutes ces études connectent ces trois réalités, ces trois géographies. En Thérèse, il n'y a pas simplement un espace intérieur seulement. Tous ces espaces ont créé une sorte de réseau de relations. Et quand on voit un espace à la lumière des autres espaces, on comprend mieux les apports de Thérèse. Curieusement, là, on a fait. Surtout chez les anglo-saxons et presque tout en anglais. Ce n'est pas en espagnol, en tout cas. Ici, plusieurs articles que je cite, vous pourrez les regarder, donc citer tout son anglais. Donc. On met aussi en lien la littérature avec la psychologie. Aujourd'hui, un domaine qu'on est en train d'étudier, c'est le monde des émotions, des sentiments. La présence de l'émotionnel, dans quelle mesure cela détermine la littérature de Thérèse, son expérience mystique, ou alors en relation avec l'art. Une étude, par exemple, très intéressante de ce point de vue-là, c'est celui de Kenneth DeMayo en anglais. Et la conclusion de cet auteur, de cette femme auteur, c'est pour Thérèse, écrire et prier était la même chose. Pratiquement. cette manière d'écrire était une manière de prier pour elle, chez elle. Et pour finir, les 2 minutes, avec cela, ça sera suffisant, j'espère, je vais lire la dernière page. Les études littéraires des dernières décennies nous ont aidés à démonter de vieux topos que l'on a répété sans cesse, comme par exemple l'écrivain par obéissance, le fait qu'elle aurait écrit par obéissance. Non, ça n'a pas existé, ça n'a jamais existé. On n'écrit pas si on n'a pas des qualités pour écrire, même si le pape ou le confesseur vous le demande. Thérèse avait des qualités pour être écrivain et c'est pour ça qu'elle a écrit. Et vous savez quand elle avait des désirs de quelque chose, c'est clair qu'elle demandait qu'on lui commande de le faire. Ça, et son premier éditeur a très bien compris ça par Fray Luis de León, son style littéraire, l'expression et l'élégance desafeitada. Alors, démaquillée en fait, une élégance démaquillée, une élégance sans maquillage, une élégance naturelle donc. C'est peut-être la note qui définit le mieux ses écrits. Cette naturalité est l'unie à l'oralité, c'est-à-dire une écriture presque parlée, et qui encore aujourd'hui a encore plus de force lorsqu'on l'écoute plus que quand on la lit. Il s'agit surtout d'un style, comme nous le disions, ouvert et souple, qui ne se soumet pas aux règles, qui anticipe déjà le Quichotte de Cervantes. On pourrait parler d'une esthétique, del descuido intentionnel, c'est-à-dire de la distraction intentionnelle. Hein, distrait au sens d'être distrait, hein, pas de distraction, divertissement, mais au sens d'être distrait. Cela est assez intéressant, lié au métalangage pardon, et à l'ineffabilité. Elle fait participer le lecteur au processus créateur avec désinvolture, en quelque sorte, on pourrait presque dire. Maintenant, autre élément, les stratégies rhétoriques qui sont connectées fondamentalement avec le thème de la féminité et de sa condition de femme, qu'elle a été obligée d'utiliser pour se faire un espace dans cette société universellement misogyne. Les grands symboles et images spatiales ne sont rien d'autre qu'en quelque sorte que des espaces, que la traduction des espaces d'intimité et de liberté. Pensez que, en grande partie, si elle est religieuse, c'est parce qu'elle cherche un espace de liberté dans le couvent. Que la société de son temps lui déniait. Voilà encore un autre exemple comment a évolué l'interprétation des textes thérésiens. L'interprétation qu'on va donner aujourd'hui n'est pas la dernière. Évidemment, il y aura certainement d'autres interprétations encore, comme il arrive avec tous les auteurs classiques. Alors, je donne un exemple de l'évolution sur un point précis. Les formules de modestie, ces expressions « moi qui suis femme » et « elle-même ne croyait pas ce qu'elle disait », ces formules, comment on les a expliquées? En 1970, le poète et critique littéraire Gerardo Diego, très connu en Espagne, parce que Thérèse utilisait ces formules et disait de pure humilité, par pure humilité, en 1970. En 1983, Marquez Villanueva, dont on a parlé tout à l'heure, parlait déjà de stratégie rhétorique. En 1990, Alison Weber, elle parlait plutôt de la rhétorique de la féminité. Vous voyez quelle évolution. En 2001, l'étude que j'ai faite sur le langage de Sainte-Thérèse, était mis plus en relation avec les théories des actes de parole et de la pragmatique. Et peut-être aujourd'hui même, il faudrait peut-être parler de formules de empowerment en anglais, c'est anglais, ça vient de l'anglais, mis sous le pouvoir d'eux, enfin, je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, des formules donc d'empowerment. Et toute autre interprétation qui soit ouverte sur le futur. Pragmatique, donc la modernité, c'est pragmatique, parce que c'est une écriture construite sur les actes de parole. Parler, c'est agir pour Thérèse, dans la ligne de Austin, John Austin, évidemment. La performativité, pour faire plaisir au lecteur, est phénoménologique à cause de son énorme capacité introspective et pour refléter le flux de conscience, comme on a appelé, très moderne. Ça, c'est très moderne et dans les romans actuels. Personne comme autant que Thérèse n'a certainement exploré les paysages de l'âme et pour nous raconter ensuite ce paysage est existentiel parce que la clé est toujours l'expérience. Ceci, je le sais, par expérience. Et c'est autre chose que de simplement l'avoir lu. Donc c'est une citation de Thérèse. Si, dit Unamuno, disait, si la mystique est philologie, une clé fondamentale pour revenir à Thérèse, ou plutôt pour faire que Thérèse revienne à nous, c'est laisser parler ses textes, laisser parler ses propres textes. À Sainte Thérèse, comme il arrive toujours avec tous les grands classiques, il faut revenir plusieurs fois. N'oublions pas qu'avec les grands livres et les grands auteurs, on tire profit, surtout quand on les relit, quand on les lit plusieurs fois. Et Sainte Thérèse, comme l'auteur de Quichotte, est une nouvelle esthétique, représente une nouvelle esthétique, une nouvelle manière d'écrire, où on ne fait pas autant attention à ce que faisaient les Grecs et les Romains. Ni Cervantes ni Thérèse ne dialoguent pas avec les Grecs et les Romains. Ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire les vieux langages de la scolastique ou de la théologie spéculative. Même plus encore, elle transcende ses propres sources littéraires pour s'ouvrir à ce qui la préoccupe vraiment. Et ça, c'est ce que je crois être l'apport de Thérèse. Pas le dialogue avec des Grecs et des Romains, mais entre le langage et la vie. Entre la verba et la res, entre ce qui est dit et ce qui est vécu. C'est peut-être cela le plus passionnant de Thérèse, ce dialogue entre les paroles et les choses.
Un très grand merci pour cette conférence vraiment passionnante et qui en plus ouvre, je me permets de signaler que c'est un terrain d'étude qui est donc, comme nous venons de le voir, qui est quand même très étudié depuis plus de 30 ans, parce qu'en Espagne, on n'a pas attendu 1982, mais qui est relativement peu présent dans les études thérésiennes en France, en tout cas dans les études liées au milieu chrétien, alors que c'est passionnant pour mieux comprendre l'itinéraire spirituel thérésien, tout ce que Thérèse nous dit. Alors, en attendant la publication des actes du colloque, il y a dans ce livre-là, dont on a parlé ce matin, parce que c'est Eliane Casalonga qui l'a traduit, il y a 60 pages de Juan Antonio sur justement qui présente les grandes lignes des études littéraires sur Thérèse. Donc c'est absolument passionnant et réellement novateur pour le milieu dont nous sommes issus pour la plupart d'entre nous.